Cette exhortation est plutôt austère et rude, et en fait son extravagance doit nous interpeller. Parce que quand même, devoir écarter les affections familiales, paternité, filiation, frère, sœur, c'est quand même une exigence qui au premier abord est quand même inhumaine. Alors, entrons dans cette extravagance du discours de Jésus et y reconnaissons ce que saint Paul appelle la folie de la croix. Cela est, d'une certaine manière, c'est la folie de la croix transposée à notre vie quotidienne. Et Jésus nous dit, celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi aussi. La folie de la croix, vous le savez, aux yeux des hommes, est sagesse de Dieu, nous dit saint Paul. Et cette sagesse, je crois qu'elle manifeste deux choses. Elle nous dit, cette folie de la croix, que Jésus a donné totalement sa vie. D'une part, et puis d'autre part, elle nous dit, cette folie de la croix, que Dieu l'a ressuscité, c'est-à-dire que Jésus n'a jamais été séparé de Dieu. Même dans sa mort physique, il n'a pas été abandonné de son Père, puisqu'il l'a ressuscité. Eh bien, il en va de même pour notre dignité de chrétien, digne du Christ. Il nous faut revêtir cette sagesse du Christ, cette folie de la croix, en faisant l'option radicale d'apprendre comme Jésus à donner, à apprendre chaque jour, à donner notre vie aux autres humains, aux non-humains aussi, à la création tout entière, donner notre vie à la vie qui nous entoure. Donc vous voyez, c'est entrer dans ce mystère de cette vie qui n'est qu'un passage en nous. Jésus nous dit « Qui a trouvé sa vie, la perdra. » Alors, c'est toujours un peu compliqué parce qu'en français, on n'a qu'un seul mot, là où le grec emploie plusieurs mots. Et quand Jésus dit dans cette formule « qui perdra sa vie à cause de moi », en grec, excusez-moi, mais c'est le mot « psyché », c'est le mot « âme ». Voilà, c'est « qui perd son âme à cause de moi, la trouvera la vie ». Voilà, ça nous met ça nous éclaire, je pense. Ça veut dire que celui qui a trouvé son assurance en lui-même, qui va, cette assurance, son identité, c'est bien de la trouver. Mais si c'est pour la garder pour soi, si c'est pour la mettre en conserve, eh bien Jésus vous dit, ça va se perdre. Vous aurez perdu votre vie. Si vous conservez votre identité en la gardant pour vous-même, vous n'êtes pas des vivants. Cette formule de Jésus, qui garde sa vie, la perdra, on la trouve dans tous les évangiles, sous différentes formes. Et voilà, elle nous dit une chose, je crois, très simple, apparemment compliquée, mais simple. Celui qui veut garder sa vie personnelle, qui veut mettre sous cloche, en conserve son identité singulière pour lui tout seul, à l'encontre du grand mouvement de la vie qui l'entoure, qui le traverse, eh bien celui-là, nous dit Jésus, celle-là, est dans l'erreur totale. Il se perd. Il se perd, il a perdu tout parce qu'il se barricade, il se replie sur lui-même, il rentre dans un état d'isolement, il se coupe du grand flux de la vie. Je crois que c'est pour cela que Jésus nous dit la sagesse de la croix, elle se décline dans cette autre exhortation, qui rejoint évidemment la première lecture. Jésus nous dit ici, celui qui vous accueille, c'est moi qui l'accueille et celui qui m'a envoyé. Garder sa vie, Eh bien, on voit bien que la femme de la première lecture fait le contraire, justement. Elle ne garde pas sa vie pour elle-même, car elle accueille l'homme de Dieu, Élisée. Elle lui partage sa vie dans sa maison. Et en retour, comprends bien que en retour, l'homme a compris que la femme avait compris, et eh bien, l'homme lui dit, ben voilà, la vie que tu me donnes, tu vas la recevoir en plénitude, tu vas avoir un enfant. Vous voyez, derrière l'anecdote de cette hospitalité chaque année, de cette chambre installée sur le toit terrasse, il y a la symbolique très forte de la vie accueillante et accueillie, de cette vie qui passe à travers chacun et chacune d'entre nous, que nous avons à accueillir pour être accueillants à la vie. Donc vous voyez, garder sa vie, l'enfermer, la cadenasser dans des principes, dans des certitudes, et là, c'est le fantasme de la protection totale, c'est parfois synonyme pour certains de synonyme absurde de pureté. Quand on a fait l'expérience, vous vous souvenez, il y a quelques mois, maintenant c'est un peu loin derrière nous, de ce fantasme socialement du confinement, quand on était tous claquemurés chez nous, on s'est bien aperçu qu'on n'était pas fait pour le confinement. On a besoin en permanence d'échanges formels et informels. On a besoin de se frotter aux autres. On a besoin de contacts, des contacts qui s'épanouissent, dans le meilleur des cas, en partage. C'est pour ça que Jésus nous dit à la fin du texte, il rajoute que la sagesse de l'Évangile tient dans un verre d'eau fraîche donné à celui qui a soif. Effectivement, le don est infiniment plus grand que la chose donnée elle-même. La générosité est infiniment plus enrichissante que tous les biens acquis. Voilà, c'est ça, je crois, le sens de la progression de l'accueil que Jésus déploie. Accueillir Dieu en l'accueillant lui-même, accueillir un prophète, accueillir un juste, accueillir simplement celui qui a soif. Voilà, en offrant un verre d'eau gratuitement, sans condition, on accueille finalement les besoins de la vie. Alors, c'est évident que la vie, c'est d'abord l'eau partagée. On fait un geste juste, on fait un acte prophétique, on fait une œuvre divine. C'est fou, c'est ça la folie de la croix, cette sagesse de Dieu qui se manifeste dans cet geste très humble, très modeste. Évidemment, c'est une façon, même en offrant un verre d'eau, de bien comprendre qu'on doit mourir à soi-même, on doit mourir aux identités claquemurées, aux identités cadenassées. Mourir à soi, c'est une belle expression de la tradition spirituelle chrétienne pour vivre avec d'autres, pour vivre pour d'autres. Donc voilà, on comprend bien que mourir à soi, l'expression peut faire peur, parce que, évidemment, elle traduit bien une disponibilité aux autres, qu'ils soient humains ou non humains, disponibilité qui montre bien qu'on recherche à s'établir dans cette disponibilité, dans cet accueil au mystère infini de la vie qu'il y a en nous, en moi et en autrui. Donc voilà, ce accueillant à ce flux de la vie, le Christ Jésus, je crois, a été profondément habité par cette intuition de la vie qui passe, des parents aux enfants, qui passe entre père et mère, fils et fille. Tous, nous sommes autant de lieux de passage de la vie. Cette vie que nous apprenons maladroitement souvent à aimer dans ceux et celles qui la manifestent. Donc je crois que c'est ça le sens profond de la formule au départ assez perturbante. Aimer le Christ plus que son père, sa mère, sa fille, sa fille. Jésus nous dit, ce n'est pas le statut de père, de mère, de fils, de fille qui est important, cette identité apparemment bien fixée. Ce qui est important, c'est la vie qui se manifeste dans ces différents rôles que peut-être chacun et chacune d'entre nous avons assumé à des moments de notre existence. Voilà, le Christ Jésus apportait en plénitude la vie de Dieu. Il était la vie de Dieu. Et saint Paul a cette formule dans un raccourci abracadabrant, « Vivre pour moi, c'est le Christ. C'est pourquoi je l'ai préféré à tout, parents, amis, frères et sœurs. » On voit bien que Paul avait compris que dans l'amour du Christ, dans la vie du Christ, ce sont tous les cadres sociaux, familiaux, conjugaux, amicaux, tous ces cadres sont trop étroits, trop étriqués pour dire la vie de Dieu. Ils sont nécessaires, mais ils finissent toujours par être trop exigeants, exigus pour exprimer la vie de Dieu en plénitude. Voilà, Jésus est le vivant, dit saint Paul, il est mort au péché, mais il est vivant pour Dieu. « Je suis le chemin, la vérité, la vie », nous a-t-il dit dans saint Jean. Jésus n'a jamais été séparé de cette vie de Dieu, cette vie éternelle, comme dit saint Jean, et c'est cela qu'atteste sa résurrection. Il est mort à lui-même, il a perdu son identité de fils de Joseph et de Marie, de gamin de Nazareth, mais il est éternellement vivant, manifestation de la vie de Dieu. C'est, je crois, notre projet à chacun. Ça peut être, je pense que si nous sommes là ce matin, c'est un peu quand même le cas. C'est là notre projet, d'être nous-mêmes l'écran pas permanent, comme sur les plages, mais l'écran temporaire sur lequel se manifeste la vie de Dieu. Nous savons bien que cet écran un jour disparaîtra. Ce que nous espérons, c'est que la vie de Dieu, eh bien, traverse et qu'elle se prolongera et qu'elle manifestera son éternité. Que l'Esprit, frères et sœurs, nous aide sans cesse, jour après jour, à entrer dans ce flux, ce dynamisme de la vie de Dieu. Amen.